l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga. Bonjour Jean-Michel Béraud.
Bonjour.
Vous êtes paysan au Pays Basque, membre d'un syndicat ELB qui est l'équivalent de la Confédération Paysanne. C'est-à-dire que vous êtes un vrai paysan.
Oui, on le revendique. Hein. À un moment donné, quand j'étais jeune, et je suis plus très jeune maintenant, on avait honte de dire qu'on était paysan. Hein. C'était très mal vu, alors il fallait être agriculteur, exploitant agricole même. Ça veut, le terme veut bien dire ce qu'il dit, hein, exploitant agricole, c'est-à-dire qu'on exploite la nature. Et non, paysan, c'est pas ça. Paysan, c'est vivre à la nature et essayer de vivre en harmonie avec elle.
Alors donc, vous élevez des canards.
J'ai élevé, hein, parce que j'ai arrêté, comme je suis proche de la retraite. Hein, j'ai deux jeunes qui devaient reprendre, puis ça s'est pas fait. Puis là, j'ai un jeune apprenti qui, lui, est plus intéressé par les poules. Donc j'ai un petit troupeau de poules pondeuses Et moi, ma passion, c'est de mettre au point des matériels. Donc là, je travaille, ça rejoint un peu le bien-être animal. Je travaille sur un projet d'abattoir mobile pour les volailles. Un abattoir qui pourra se faire à la ferme, à petite échelle, avec des méthodes qui n'ont rien à voir avec les abattoirs industriels.
Alors du coup, on va en parler. On va parler, bien sûr, de la question de la différence entre l'agriculture industrielle et l'agriculture paysanne, notamment sur le bien-être animal. Vous l'avez vécu en plein fouet sur la question, sur votre élevage de canards toute votre vie. C'est comment vous avez vécu cette agriculture?
Quand je me suis installé, donc c'est pas d'aujourd'hui, c'était en 82, je me suis installé ayant fini mes études agricoles. Et donc à l'école, on apprenait que les techniques industrielles. Donc j'ai appliqué ça. Et puis finalement, j'ai eu la chance d'être sur une petite ferme avec des terres difficiles, des terres pauvres, et donc qui ont de suite très mal tourné avec les méthodes industrielles. Donc aussi bien au niveau des canards, où j'ai commencé à avoir, à cause de la concentration, j'ai eu des maladies qu'il fallait traiter, il fallait vacciner. Et sur les cultures, pareil, les terres devenaient de plus en plus dures. Plus je mettais d'engrais, moins il y avait de résultats. Donc. Puis on avait créé l'association des producteurs fermiers du Pays Basque qui réfléchissait à mettre en place, pour pouvoir proposer à nos consommateurs des produits différents, des produits industriels. Et donc c'est là qu'on a pris conscience collectivement, parce que c'est pas évident de le faire seul. On a pris conscience collectivement que finalement nos petites structures c'était une chance en fait pour pouvoir produire différemment et faire des produits qui soient plus en phase avec la nature, enfin, d'arrêter de se battre avec la nature mais essayer de mettre en place des systèmes qui respectent ces lois fondamentales.
D'accord, alors on ne l'imagine pas bien parce que c'est vrai qu'on a cette image du canard gavé, maltraité, mais c'est pas ça.
C'est sûr que le gavage c'est un peu tendancieux. Hein.
Mais vous faites du foie gras?
Je faisais, oui, j'ai arrêté. J'ai fait du foie gras pendant 36 ans. Mais j'ai toujours essayé de le faire. Ça a toujours été pour moi, le bien-être animal a toujours été quelque chose d'important. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à tuer mon premier canard. Hein. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai mis au moins 4-5 ans avant de tuer mon premier canard. C'est parce que j'avais quelqu'un qui n'était pas la personne habituelle et qui n'y arrivait pas, qui faisait souffrir la bête. Donc bon, j'ai pris le couteau, j'ai fait moi-même. Mais depuis, j'ai toujours fait en sorte de respecter mes canards. Même si le gavage peut sembler être une méthode barbare, en fait, c'est une alimentation forcée, mais qui n'est pas différente de l'engraissement d'autres animaux. Sauf que là, on fait ingurgiter aux animaux leur dose. Et donc, ce qui est choquant, c'est les images quand on voit qu'on leur fait avaler un tube. Donc, on l'imagine sur nous, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'appuient les anti-gavages. Mais morphologiquement, les canards ne sont pas faits du tout comme nous. Hein. Les canards n'ont pas de dents, comme les autres oiseaux. Et donc, ils ont ce qu'on appelle le jabot, qui est un organe qui stocke les aliments. Donc, une fois qu'on a passé la langue, en fait, on aboutit au jabot. C'est un sac, en fait. Et on voit souvent dans les reportages animaliers des mères oiseaux qui nourrissent les petits. On voit les petits qui rentrent la tête dans la gorge de la mère pour attraper des aliments dans le jabot. Donc atteindre le jabot, c'est pas... Faire avaler un tube à un canard, c'est pas quelque chose de traumatisant pour eux. Par contre, il faut bien sûr que le tube soit pas blessant. Et puis il faut pas... Là où il y a un problème avec le gavage, c'est que on fait ingurgiter des aliments, mais il ne faut pas que la bête tombe malade, parce que si elle attrape une crise de foie, elle ne fait pas de foie gras. Donc il faut faire quelque chose qui soit adapté aux animaux. Et donc il faut que ce soit fait à petite échelle, si on le fait à grande échelle. Donc aujourd'hui, les industriels y arrivent parce qu'ils mettent des produits dopants qui font que les canards, en mettant la même dose à tout le monde, ça marche. Mais voilà, c'est, derrière, on a des produits qui sont pas naturels.
Alors bon, pour produire des canards et des foie gras dans des conditions paysannes, il y a aussi l'intérêt d'utiliser beaucoup, beaucoup moins de médicaments. Parce que là, c'est la question vraiment fondamentale de tout élevage industriel. Même les enfants dans les crèches, moi, je dis souvent ça. Plus on est nombreux et plus on risque de se transmettre des maladies.
Oui. Ça, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait, qu'on avait décidé de faire une agriculture qui respecte les lois de la nature, une des règles impératives de la nature, c'est il ne faut pas de concentration. Concentration égale maladie. Et la maladie, en agriculture, ce n'est pas une fatalité, c'est une sanction. Quand on a une maladie, c'est qu'on a mal fait son travail d'éleveur. On l'apprend à l'école, hein, mais ça reste très théorique. Mais de le vivre, c'est impressionnant. Hein. Donc moi, j'avais démarré, comme je disais, sur les méthodes industrielles, donc avec des petits parcs pour mes canards. Et puis à côté, tous les champs qui étaient autrefois des prairies, tous les champs que j'avais mis pour faire du maïs en monoculture. Et dans ces petits parcs, quand j'ai augmenté les quantités, j'ai commencé à avoir des maladies. Les petits canards, il fallait leur mettre aliments médicamenteux parce qu'ils avaient de la coccidiose. Les grands canards, ils avaient des choléras, donc il fallait vacciner obligatoirement avec un rappel au bout de 3 semaines. Enfin, moi, ça ne me plaisait pas du tout. Et à côté, les champs de maïs, en monoculture, ça n'allait pas non plus. Et en fait, le déclic est venu. J'avais vu chez des éleveurs qui mettaient quelques rangs de maïs dans les parcs à canards pour leur faire de l'ombre. Ils ne ramassaient même pas le maïs. Hein. Et j'ai essayé ça, et j'ai vu que j'avais, alors que j'avais des maïs minables à côté, là j'avais des maïs magnifiques sans rien mettre, pas de désherbant, rien du tout. Quoi. Je semais, j'avais un maïs magnifique. Et les canards, en fait, ils étaient à l'ombre. En fait, il y avait une très bonne interaction entre les deux, parce que les canards, par la déjection, ils fertilisent le maïs. Et puis, ils mangent les mauvaises herbes, ils mangent aussi les feuilles d'en bas, donc il faut que le maïs soit assez gras avant de les mettre, parce qu'ils raffolent les feuilles du maïs. Mais ils mangent aussi les limaces, ils mangent tout ce qui est nuisible au maïs. Et en échange, le maïs leur fait de l'ombre. Et si on imbrique les deux, en fait, on peut donner de la surface. C'est-à-dire en faisant 2 ateliers extensifs, beaucoup de place pour les canards et la même place pour le maïs, en fait, on obtient un tout qui est très productif. Hein, j'ai tout un fond de vallée qui fait 10 hectares avec 1 km de ruisseau. Donc j'ai clôturé les 10 hectares pour que les renards ne puissent pas rentrer. Et là-dedans, j'ai mis maïs et canard ensemble. Donc du coup, je n'ai pas perdu. Au contraire, j'ai gagné en maïs. Hein, j'avais plus de surface. Et avec des meilleurs maïs, j'ai augmenté mes rendements. Et les canards, comme ils étaient sur beaucoup plus de surface, non seulement ils n'avaient pas de maladie, et ça a été spectaculaire. Hein. Dès que j'ai mis plus de place, toutes les maladies ont disparu. C'est presque miraculeux, quoi. On n'y croit pas au début. Hein. Et non, ça s'est confirmé. Pendant 20 ans, les seuls vétérinaires que j'ai vus, c'était des clients qui venaient acheter mes produits.
Alors c'est comme ça que vous êtes retrouvé, donc Jean-Michel Béraud, au Pays Basque, avec l'État sur le dos, qui a voulu absolument vous faire abattre vos canards, qui étaient en très bonne santé. Vous pouvez expliquer cette histoire incroyable ?
Oui, il faut retracer un peu le contexte. Il faut dire que l'agriculture, elle est autogérée. Depuis les années 60, l'agriculture est autogérée par les pouvoirs publics et le syndicat FNSEA, le puissant syndicat FNSEA, qui est le bras armé de l'agro-industrie. Moi, je l'ai vu, hein, parce que je m'occupais de produits fermiers au niveau national. J'ai vu une haute fonctionnaire qui s'occupait donc du terme fermier, qui allait dans l'autre sens, être mutée à Rungis, responsable du service sanitaire de Rungis, parce qu'elle était allée contre le lobby industriel. Hein. Donc, elle a été réintégrée, mais voilà. Donc, ça va jusque-là. Hein. La nomination des hauts fonctionnaires dépend de la FNSEA. Donc, on a aux manettes, hein, au niveau du ministère, des gens qui sont aux ordres de l'agro-industrie. Donc ils mettent en place des normes sanitaires et des politiques sanitaires qui sont celles de l'agro-industrie. Et ils essaient et les normes sanitaires, c'est un puissant outil anticoncurrentiel. Donc on a toute une série de normes sanitaires qui sont mises en place et qui sont faites principalement pour étouffer les petits fermiers et les artisans.
Parce que ça coûte cher en fait ?
Oui, c'est parce qu'on nous impose des normes sanitaires qui n'ont rien à voir avec nos réalités, qui sont nécessaires et même pas suffisantes pour les industriels, hein, parce que malgré toutes ces installations qu'ils mettent en place, ils sont quand même en permanence sujets à des maladies. Et nous, par contre, c'est complètement idiot. Hein. Moi, par exemple, on m'a demandé de mettre un sas sanitaire à l'entrée de chacun de mes parcs, qui sont des champs de maïs, en fait, où les canards sont perdus au milieu du maïs. Il aurait fallu que je mette un sas sanitaire, que je me change, voire même que je nettoie le tracteur au karcher avant de rentrer dans le champ. qui n'aurait pas du tout été en contact. Le tracteur, j'aurais jamais été en contact avec les canards.
Alors un sas sanitaire, c'est un peu comme quand on va à la piscine et qu'on doit se passer les pieds dans l'eau de Javel avant de rentrer dans les bassins.
C'est ça, oui. Il faut se laver les mains, il faut changer de bottes. Il faut avoir d'un côté, il faut avoir deux portes en fait. On rentre par une porte, on a un banc au milieu, on change de tenue et on sort par l'autre porte de l'autre côté avec une autre tenue. Qui est quelquefois, c'est une tenue cosmonaute carrément.
Alors voilà, donc ça c'est des mesures sanitaires qui descendent de l'État central, du ministère de l'Agriculture, qui ont été négociées avec la FNSEA, ce gros syndicat en lien avec les industriels. Mais au final, pour les fermiers comme vous, c'est pas du tout adapté ces normes-là. C'est beaucoup trop élevé, alors que c'est pas assez élevé pour eux, la concentration.
C'est ça, parce que la grippe aviaire donc, qui a été la cause de tout ça, parce qu'il y a des scientifiques aussi qui sont... aux ordres de la FNSEA, et donc scientifiques essaient de présenter la grippe aviaire comme une nouvelle maladie, mais c'est une aberration totale. Il y a un scientifique au début des années 2000 qui a analysé des oiseaux sauvages dans la baie de Somme. Donc la grippe aviaire s'est caractérisée par un nom H, quelque chose, un chiffre H5N1 ou H5N8.
Oui, elle nous a fait bien peur il y a quelques années.
Voilà, donc les combinaisons de H et de N dans les oiseaux, il peut y en avoir, je crois que c'est 133, je vous le dis de mémoire. Et donc ce scientifique-là, qui au début des années 2000 a analysé des oiseaux sauvages en baie de Somme, il a retrouvé plus de 90 formes différentes de grippe aviaire, mais tout était non virulente. En fait, ce n'était pas visible. Et c'est ce qui se passe dans la nature. La grippe pour les oiseaux, c'est un peu comme le rhume pour nous. En fait, la plus souvent, ça passe inaperçu. Parce que dans la nature, ces formes très virulentes, elles ne peuvent pas prospérer, en fait. Comme elles tuent très vite le porteur, donc elle n'a pas le temps d'être transmise à un autre animal. Et donc dans la nature, on trouve que des formes peu virulentes. Par contre, en élevage industriel, où on a une concentration d'animaux, en plus qui sont génétiquement très, très proches, hein, ils sont tous issus des mêmes parents. Hein.
Donc on a des animaux, c'est comme des clones.
Quasiment, ouais. C'est pas vraiment des clones, contrairement au maïs hybride, où là on a vraiment des clones. Là on n'est pas sur des clones purs, mais on est sur une pauvreté génétique, c'est-à-dire en volaille, c'est très facile. Une poule va pondre des centaines d'œufs. Et donc, en quelques générations, à partir de 3-4 individus hyper productifs, on peut avoir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'individus. Donc, on a une.
Qu'on a sélectionné parce qu'ils étaient plus productifs.
Mais il faut savoir que la rusticité, c'est-à-dire la résistance, la capacité à résister aux maladies, elle est souvent inversement proportionnelle à la productivité. Donc, plus on a des bêtes productives, plus on a des bêtes fragiles. Hein, ce sont des Formule 1. Formule 1, vous n'allez pas la faire rouler dans une route de campagne. Hein. Elle va casser.
Et puis, la diversité interspécifique dans une même espèce, ça permet justement de pouvoir avoir les mêmes maladies. S'il y a une maladie, on ne sera pas forcément touché.
Ouais, il faut avoir des animaux qui sont adaptés au terroir où on est. Nous, on a un climat très pluvieux, très, très malsain quelque part. Hein. Beaucoup de pluie et de douceur. Il y a des animaux qu'on fait venir d'ailleurs de zones sèches et arides et ne vont pas du tout s'adapter. Hein. Et donc il faut s'appuyer sur les races locales qui, au fur des générations, ce sont les individus les mieux adaptés au terroir qui ont prospéré. Et donc il faut s'appuyer là-dessus. C'est pour ça que nous, on préconise beaucoup le travail avec les races locales et continue donc la sélection qui a été faite jusque-là sur ces races locales.
Et c'est comme ça que vous n'avez pas été atteint par les deux épidémies qui ont eu lieu récemment, là, l'épidémie de l'hiver 2015-2016 et celle de 2017-2018, c'est ça ?
L'année suivante, 2016-2017.
D'accord. Donc vous n'avez pas été touché et malgré ça, on est venu vous dire « Désolé, vous êtes en zone d'abattage préventif. » Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut que vous tuiez tous vos canards d'un coup ?
Oui, mais là, ça fait... On revient au problème de départ qui est la mainmise de la FNSEA donc sur les responsables. Ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui sont très dociles, en général, ce n'est pas les plus compétents. Quand il y a des choses, quand ils se trouvent face à des choses inattendues, ce n'est pas les personnes les plus à même de réagir de la bonne manière. Donc là, ce sont des gens incompétents qui ont géré ces deux épisodes de grippe aviaire. Donc ils sont partis, dans leur bureau, ils ont mis en place des schémas où... ils veulent faire aussi de la politique sanitaire à grand spectacle. Donc, dans les colloques internationaux, quand on peut dire que j'ai vaincu la grippe aviaire en tuant 5 millions de canards, ça présente mieux qu'en disant « bon, moi j'ai vaincu la grippe aviaire en tuant 3 000 hein, ». Ça a une autre... Donc ils ont mis en place des dispositifs très lourds où il fallait tuer sur 5 km autour d'un cas, il fallait tuer tous les animaux. Donc ils ont mis ça en place, sauf qu'ils n'avaient pas les moyens en face. Donc du coup, ils ont une épidémie, c'est comme un incendie. Hein, et il faut l'arrêter de suite. Si on ne l'arrête pas de suite, après, on ne maîtrise pas. Et si on continue à faire le parallèle avec l'incendie, dans l'incendie, l'ennemi, c'est le vent. Là, pour la grippe aviaire, le propagateur, ce n'est pas le vent, c'est les transports. Les transports, on peut les arrêter. Sauf que si on arrête les transports, on arrête l'agriculture industrielle. Elle est basée sur les transports. Puisqu'il y a une grosse spécialisation. Donc il y a des gens qui font les petits canards, d'autres qui démarrent les canetons, d'autres qui... Ces canetons démarrés qui les amènent jusqu'à être prêts à gaver. Et ensuite, les canards prêts à gaver, ils sont transportés pour être gavés dans un autre endroit. Puis de nouveau transportés pour être abattus. Donc c'est une filière qui est hyper segmentée, avec des transports de plus en plus lointains qui se font entre chaque étape. Et donc du coup, le transport est essentiel. Sauf que quand on transporte des animaux vivants, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre un camion qui transporte des volailles, en fait on voit des... Parce que les bêtes, elles sont entassées dans des caisses pour pas qu'elles s'étouffent. On est obligé de les surventiler. Et donc on voit à l'arrière du camion plein de plumes qui volent. Il y a des collègues irlandais qui disaient qu'ils connaissent certaines routes dans les Landes où il passe tellement de camions de volailles que les bas-côtés sont blancs de plumes. Et ces plumes, en plus, elles sont souillées de déjections. Donc comme la grippe aviaire, le virus de la grippe aviaire se retrouve en déjection, c'est transporté par ces plumes. Et donc tout au long de la route, les camions, eh bien, ils sèment la maladie. Et donc les pouvoirs publics, ils ont voulu tuer beaucoup. Alors déjà, dans leur schéma, alors qu'aux États-Unis, si on compare les États-Unis, qui ont, eux, industrialisé beaucoup plus tôt que nous, hein, eux, quand ils tuent, ils ne tuent, ils bloquent tous les transports, et ils analysent, ils tuent que ce qui est positif. Donc ils en ont peu à tuer, et le reste, ils vaccinent s'ils ont un vaccin ou ils laissent en observation.
Ce qui n'était pas le cas en France pour vous, du coup.
Ah non, en France, ils ont dit, un rayon de 5 km, on tue tout. Donc là-bas, aux États-Unis, ils tuent que ce qui est positif, ils tuent très vite. Et une fois que tout est tué, il brûle sa lance-flamme. Alors c'est des trucs de sauvages, mais c'est très efficace parce que la grippe aviaire est très sensible à la chaleur. Donc au lance-flamme, ils détruisent tout. En France, ils ont dit, oh, les Américains, c'est des sauvages. Nous, on va faire ça proprement. On va les mettre dans des camions d'écarissage et on va les transporter dans un centre d'écarissage. Sauf que le responsable, le scientifique qui avait mis ça en place, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Je lui ai dit, mais moi, il y a un transporteur qui m'a témoigné qu'il a vu passer un camion d'écarissage qui venait d'un abattage, qui venait d'être fait avec des canards donc, qui avaient la maladie. Et le camion d'écarissage, tout au long de la route, il laissait dégouliner des jus. Il me dit, mais c'est pas possible, un camion d'écarissage, c'est étanche. En théorie, c'est étanche, mais un joint, au bout d'un certain temps, il est beaucoup moins étanche. Et donc là, c'est vous qui avez semé la maladie. Ah, il n'en revenait pas. Et puis je lui ai dit, vous avez fait pire encore. Parce qu'à un moment donné, donc, comme ils n'y arrivaient pas, ils ont carrément réquisitionné les abattoirs. Ils chargeaient en camion des canards positifs. Donc là, des canards positifs, ils ont transporté en camion. Quand on voit les camions, comment ils les propagent. Donc voilà pourquoi ils ont couru par la maladie pendant 4 mois et qu'ils ont dû tuer 5 millions de canards pour arriver à... Voilà.
Alors 5 millions de canards qui ont dû être tués parce que le ministère de l'Agriculture a demandé au ministère de la Santé de passer voir les agriculteurs, leur dire de tuer. Mais vous, au Pays Basque, alors il y a eu 3 fermes qui se sont rébellées, qui ont dit non, on va faire de la résistance parce que nous, on sait que nos canards ne sont pas contaminés. Comment ça s'est passé ?
Oui, on était mobilisés déjà l'année avant. Et donc l'année avant, on avait dit pouvoir public, le problème, il est quand même, on avait dit responsable sanitaire, on avait réuni en préfecture, on avait dit, mais vous voulez arrêter, on a dit, arrêtez les camions. Et là, il nous l'avait dit, mais attendez, si on arrête les camions, on arrête toute l'agriculture industrielle, c'est pas possible. J'ai dit, bon, mais alors ne pensez pas arrêter la maladie. Et donc on a eu 2 épisodes de grippe aviaire. Et aujourd'hui, le problème n'est pas vraiment résolu. Hein. Au niveau des camions, donc, ils ont acté. Aujourd'hui, ils ont arrêté quand même de dire que c'était les oiseaux sauvages qui propageaient la maladie. Ils ont été obligés de reconnaître que c'était les transports qui étaient la cause majeure des... Alors, ils disent pas fort. Hein. C'est dans les réunions d'initiés que c'est dit que c'est la cause majeure de loin, les transports d'animaux, de la propagation de la maladie. Donc, ils ont mis en place tout un programme de nettoyage des cages, mais bon, c'est pas vraiment le fond du problème, ça. Et par rapport aux plumes qui volent, ils ont fait mettre des petits filets, mais voilà, il y a quand même...
Il y a du progrès, on va dire.
Voilà.
Mais enfin, du coup, pour revenir sur votre lutte, vous, vous avez quand même réussi à résister à des injonctions très très fortes. Ils sont venus physiquement pour essayer d'abattre vos canards dans votre ferme. Comment ça s'est passé ?
Donc j'avais dit, on s'était mobilisé depuis un moment et on s'était rendu compte aussi, on est beaucoup producteurs fermiers, on fait de la vente directe, hein, avec des petites fermes qu'on ne produit pas beaucoup. Le peu qu'on produit, on essaie de produire bien, de le vendre en vente directe. Et beaucoup de consommateurs nous avaient dit, mais si on vient vous abattre les canards, nous on ne va pas laisser faire, hein, on sera là. Et voilà, au niveau de toute la société civile, nous disait la même chose. Hein. On ne laissera pas. C'est pas les industriels sont responsables de la maladie. Il faut qu'ils assument pour leurs élevages. Mais vous, il ne faut pas qu'ils viennent vous embêter. Donc on savait, on avait un peu cet a priori qu'on ne serait pas seul si on luttait contre les abattages. Et donc quand on s'est retrouvé ensemble d'abattage, eh bien, on a décidé qu'on allait résister à ça. Donc au départ, les services sanitaires étaient assez conciliants. Ils avaient dit bon. Le directeur des services vétérinaires nous avait dit bon, faites des analyses, ça me donnera des billes moi par rapport à Paris pour pouvoir éviter un abattage. Donc on avait fait des analyses qui étaient négatives, mais Paris a été le technocrate qui dirige ça là-bas a dit non, il n'y a pas. Puis la FNSEA a derrière poussé, hein. D'ailleurs publiquement le responsable local de la FNSEA avait menacé le préfet de le poursuivre en justice s'il ne faisait pas abattre nos élevages.
Et finalement ils sont venus et vous avez quand même réussi à avoir le soutien de du monde paysan au Pays Basque, des habitants et aussi d'élus.
Oui, des élus, des consommateurs, beaucoup de consommateurs et puis de citoyens hein, qui admettaient pas qu'on vienne détruire une agriculture paysanne locale qui trouvait qu'il fallait absolument préserver et développer. Donc beaucoup de gens se sont révoltés par rapport à ça. Et donc, par rapport au premier abattage, il y a eu une très grosse mobilisation populaire, avec des gens qui venaient occuper les lieux pendant une semaine, parce qu'a priori, la date officielle n'était pas connue. Et le jour de l'abattage, oui, il y avait entre 100, 130, 150 personnes par site, hein. Et des élus qui étaient là. Donc au départ, c'était la première fois, c'était bon enfant, c'était les gendarmes locaux qui avaient été mobilisés. Et les gendarmes locaux ne nous avaient pas caché en privé leur sympathie. Hein. Ils sont souvent issus du milieu rural, donc eux-mêmes étaient scandalisés. Hein. Celui qui m'a amené l'arrêté préfectoral pour l'abattage, c'est un gendarme qui avait un peu de bouteille, une trentaine d'années de carrière. Et il me dit, mais quelle honte, qu'est-ce qu'on ne nous fait pas faire ? Alors qu'il y a tant de problèmes, on vient abattre des canards, en plus que vous avez analysé qu'ils sont sains, hein. C'est n'importe quoi. Et tout au long de la semaine, et après aussi, hein, ils sont venus prendre de nouvelles, savoir comment ça allait, tout ça. Donc ça a été, avec gendarmes, ça a été très bon enfant, en fait. Et donc quand ils ont vu qu'il y avait du monde sur la route, ils n'ont pas insisté, ils sont repartis, ils sont repartis chez eux.
Mais ils sont revenus une deuxième fois.
Et donc là, le préfet aussi, donc, ça faisait un moment qu'on négociait avec le préfet, on lui avait expliqué tous les tenants et aboutissants, donc il avait compris qu'en fait, nos élevages ne présentaient aucun danger. Et donc lui ne voulait pas aller dans le rapport de force, c'était évident. Donc lui voulait nous mettre sous surveillance sanitaire, hein, avec des analyses, mais Paris n'a pas voulu. Donc on nous a avertis la semaine suivante, 17h, qu'ils viendraient le lendemain matin à 6h du matin pour abattre nos canards. Et que là, il y aurait du monde, enfin, qui viendrait en force. Donc, moi, je croyais que c'était perdu, hein, qu'il y aurait... C'était pas possible de mobiliser les gens en une nuit. En plus, c'était sur semaine, c'était un vendredi matin. On s'est dit, on va pas arriver à mobiliser les gens comme ça. Hein. Et en fait, il y a eu plus de monde encore que la première fois. Et moi, ce qui m'a hurri, j'ai un copain qui habite dans le Gers, qui a fait... pour être là à 6h du matin, il est parti. Il avait 2 heures de route. Et lui avait eu ses canards abattus. Et il est parti de chez lui, donc à 3h30 du matin, dans la nuit noire et froide, pour venir là. Et comme lui, il y avait plein de gens qui étaient... C'était impressionnant, moi, ça m'a mis à chair de poule. Je descendais mon tracteur, parce qu'il fallait que j'amène tout le matériel qu'il fallait pour qu'il puisse attraper les canards. Donc je descendais mon tracteur, il faisait nuit noire, hein. C'était au mois d'avril, hein, à 6h du matin. Et derrière moi, j'avais un défilé de voitures, et il y avait des voitures partout. Ma ferme, c'est au bout d'un fond de vallée très étroit, très perdu. Et ce coin, on n'a jamais vu autant de voitures, c'était quelque chose d'insensé. Hein.
Alors ça doit faire du bien quand on se sent soutenu comme ça, et ça doit donner beaucoup d'espoir aussi pour les autres paysans qui se retrouvent face comme ça à une grosse machine injuste qui, bon, au départ part sur des bonnes bases, hein, on dit il faut limiter l'épidémie de grippe aviaire, mais là c'était pas justifié, ça donne de l'espoir pour la suite.
Ah mais bien sûr, et je crois qu'en fait si on nous a poursuivis en justice, c'est... Et enfin, le préfet ne nous l'avait pas caché aussi. Si on laisse passer votre truc, à la prochaine épidémie, on va pas pouvoir tenir les éleveurs. Et la FNSEA aussi, c'était son discours en disant « Mais si vous laissez passer ça, on ne pourra pas tenir les gens. » Il faut savoir que chez moi, le jour du second, enfin, de la deuxième tentative d'abattage, il y avait le responsable cantonal des jeunes agriculteurs, qui est une filiale de la FNSEA. Donc les gens de la base de la FNSEA ne suivent pas, en fait. Hein. Ils étaient d'accord avec nous. Parce que pour un éleveur, c'est quelque chose d'insensé de tuer des bêtes en bonne santé et qui ne présentent pas de danger.
Alors du coup, on a essayé de limiter le précédent en vous faisant un procès. Vous n'êtes pas en prison pour autant?
Non, il n'y avait pas de prison requise. Hein, mais
pour la forme?
En fait, si, il y avait un réquisitoire qui avait été fait avec des amendes assez conséquentes. Mais en fait, les tribunaux ont entendu nos arguments. Ils ont bien compris. Hein. Le tribunal de Bayonne et les trois juges ont été très curieux de connaître nos méthodes de production. Ils ont bien compris qu'il y avait deux types d'agriculture et que donc, nos systèmes de production ne présentaient pas de danger au niveau sanitaire. Donc on a été relaxés.
Très bien. Eh ben, Jean-Michel Béraud, merci beaucoup. Donc, on peut prendre exemple un peu sur les luttes de la paysannerie basque. Hein. Il y a un syndicat qui s'appelle ELB, l'équivalent de la Confédération Paysanne, et même une chambre d'agriculture alternative spéciale Pays Basque.
Oui. On avait créé déjà beaucoup d'associations locales hein, qui se battaient avec la chambre d'agriculture de Pau. Et pour en finir avec ces luttes contre l'institution, ben, finalement, le syndicat a décidé de mettre en place sa propre chambre d'agriculture.
Qui a eu aussi droit à un beau procès très long de la part de l'État français, là, pour le coup. Parce que là, c'est remettre en cause le système institutionnel des chambres d'agriculture.
C'est ça. Même si, en privé, beaucoup de gens s'accordent à dire que les chambres d'agriculture sont aujourd'hui des grosses machines qui pédalent dans le vide, elles font partie du paysage institutionnel, on ne peut pas les remettre en cause comme ça.
Et c'est elles qui prennent malheureusement beaucoup, la plupart des décisions quand même sur le terrain. Et alors, il faut dire, c'est comme une sorte de petit parlement des agriculteurs, sauf que ce n'est pas du tout proportionnel, c'est complètement disproportionné. Et du coup, ce qui fait que... Il y a toujours une part très très importante des personnes qui siègent qui sont du syndicat majoritaire.
Oui, je ne sais pas exactement le système d'attribution des places, mais celui qui arrive en tête, il a une très grosse majorité des sièges. Donc en général, il n'y a qu'une ou deux personnes de l'opposition au milieu de 30 ou 40 personnes. Donc ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent rien faire.
Voilà, donc on espère qu'il y aura bientôt un nouveau système un peu plus démocratique qui représente plus les paysans et toute la diversité des agriculteurs dans les chambres d'agriculture en France.
Oui, et puis comme la Bolanchangabara, la chambre d'agriculture Pays Basque, il faudrait qu'elle soit ouverte aussi aux citoyens, aux défenseurs des animaux et aux écologistes, enfin à tous les gens qui se sentent concernés par la gestion du milieu rural.
Très bien, merci. C'était l'ours et la carotte, écoutable sur Internet.